L'urine, de l'or liquide au jardin avec Renaud Delouze.
Bonsoir. Je dis bonsoir parce que je suis un peu aveuglé par la lune, là. Donc, je vais peut-être redescendre après dans le à votre niveau, comme ça je serai un peu moins aveuglé. Vous m'entendez bien, hein ? Oui ? Ok, ça marche. Bon, donc, je suis donc pépiniériste, et ça fait 20 ans que je suis pépiniériste en Isère, dans le Grésivaudan. Donc c'est entre Grenoble et Chambéry, et donc je cultive des végétaux méditerranéens et également aussi des plantes, diverses plantes pour le jardin. Donc j'ai une expérience déjà de pépiniériste et en même temps je suis ingénieur. J'ai travaillé chez Schneider à l'occasion, enfin il y a longtemps, et donc j'ai aussi cette espèce de recherche technique qui fait que j'aime bien aller jusqu'au bout des choses. Et donc en fait mon exposé, mon livre s'appuie sur une double compétence, la compétence du pépiniériste qui en même temps cherche à aller un peu plus loin dans l'analyse des produits issus de recyclage. Alors, dans les matières fertilisantes issues de recyclage, il faut savoir qu'il y a deux matières fertilisantes en recyclage. Il y a des matières noires, matières comme ça, des matières noires, et ce sont des matières qui sont dites carbonées. Donc, c'est-à-dire qu'ils sont issus alors, de carbone et en particulier de carbone végétal. Parce que dans le végétal, il y a un constituant qui s'appelle la lignine et qui est peu biodégradable et qui, au final, va terminer par faire de l'humus. Donc, quand on recycle tous les déchets alimentaires donc de végétaux, y compris les excréments des animaux herbivores, on se retrouve avec du matériel d'origine végétale. Et le matériel d'origine végétale, au final, il va terminer sur une forme noire, proche de l'humus, que tout le monde connaît, et qui contient du carbone, et qui contient aussi d'autres éléments tels que de l'azote, du phosphore, du potassium, etc., mais grosso modo, du carbone. Alors, ces matériaux-là sont très importants dans un sol, puisqu'en fait, ces matériaux-là permettent une amélioration biologique, physique et chimique des sols. C'est-à-dire qu'ils sont bons à tout niveau. Ils sont bons au niveau structurant, ils sont bons au niveau de la vue du sol, et ils sont bons aussi au niveau de l'évolution de matières putréfiantes, comme les urines. Et donc, une urine dans un sol, grâce à la présence de matériaux noirs ainsi, va se dégrader, mais de se dégrader dans un bon sens, c'est-à-dire dans un sens assimilable par les végétaux. J'aime pas le mot dégradé, parce que le mot dégradé, c'est un côté péjoratif. Donc on va dire, va évoluer, mais c'est quand même une dégradation, parce que par rapport à la substance de départ, il y aura une évolution vers une substance plus minérale. Alors, qu'est-ce qu'on entend par minéral ? Ce sont des substances qui contiennent peu de carbone. Et les plantes, il faut savoir que les plantes se nourrissent de carbone au niveau de leurs feuilles, mais pas au niveau de leurs racines. Donc, les plantes sont intéressées par des matériaux qui ne sont pas de couleur noire, qui sont de couleur, on va dire, claire. Et ce sont des substances qui contiennent ce qu'on appelle des sels minéraux. Et les sels minéraux, c'est la dégradation de tous les autres matériaux et qui vont évoluer vers cette substance ici. Alors, cette substance ici que je vous ai amenée, quand on la sent, elle a une odeur très agréable de sous-bois. Il s'agit de fumier de vers de terre. Fumier de vers de terre. En fait, tous ceux qui font du compost font, sans le savoir, du fumier de vers de terre. Quand vous regardez votre tas de compost, vous verrez que souvent il est froid et vous verrez qu'il y a dedans plein de bestioles. Et ces bestioles détruisent, mangent et tout ensemble, il n'y en a pas une plus que les autres, notamment les collemboles, les petits insectes blancs. Et toutes ces bestioles détruisent vos matériaux végétaux, vos matériaux carnés aussi, mais les matériaux carnés, ils se dégradent à 100%. Donc on ne les retrouve plus. Par contre, tout ce qui est matériaux végétaux se termine, je vous ai dit, sur une forme noire qu'on appelle de l'humus au final. Alors ici, j'ai amené aussi un autre matériau qui lui a composté à peine 24 heures. 24 heures, quand on ouvre la petite boîte ici, on sent, il y a une odeur. Donc du coup, c'est un matériau qui n'est encore instable. Les matériaux instables sont capables de chauffer jusqu'à 70 degrés. C'est-à-dire que si je mettais, par exemple, de l'urine dans du compost en pleine action, eh bien l'urine, là, pour le coup, se dégraderait et se transformerait et participerait à créer un produit tel que je vous ai montré là tout à l'heure. Ce produit que je vous ai montré tout à l'heure, c'est presque un support de sol, en fait. C'est presque un terreau. C'est presque un support dans lequel on peut faire pousser les plantes. Alors que celui-ci, c'est un matériau qui, lui, est ce qu'on appelle un engrais. C'est-à-dire que lui, en 15 jours, il peut être assimilé par les plantes. Alors que celui-ci va mettre beaucoup plus de temps. D'accord ? Alors, dans mon livre, c'est ça que c'est le point important dans mon livre, c'est de dire que dans le recyclage de nos déchets, vous avez des déchets d'origine végétale, tels que les déchets alimentaires, mais y compris pour ceux qui ont des toilettes sèches, des matières fécales, avec du papier, des choses comme ça. Ça, ce sont tous des déchets carbonés, pour la plupart, qui contiennent des résidus de végétaux, et qui, eux, vont servir à nourrir le sol en matière fraîche ou en matière bien élaborée, et qui vont permettre au sol, d'avoir une bonne activité biologique, physique et chimique. Par contre, tous les déchets d'origine, ce qu'on appelle acides aminés, donc les protéines, tout ce qui est protéines, ce qu'on appelle les cheveux, par exemple, ça en font partie. Les cheveux contiennent des protéines. Donc les cheveux, ça fait partie de la famille des engrais. Et ce n'est pas d'origine végétale. Donc les cheveux, c'est un engrais au même titre, un autre produit que je vous ai amené, d'ailleurs, que la farine de plume. On est près de l'Ain, ici. Dans l'Ain, il y a des abattoirs et vous pouvez acheter de la farine de plume déshydratée. C'est un pur engrais, très très fort à 10%. Quand on l'ouvre, on sent que ça sent pas très très bon. Il est traité, il a monté en température. Ça, c'est un engrais d'origine de protéines. Donc ça, c'est quelque chose qui contient de l'azote. Voilà. Donc, je résume. Dans nos déchets, vous aurez les déchets d'origine végétale qui vont évoluer vers cette forme-là, et les déchets d'origine animale, dont font partie le cheveu, le sang, les os, enfin, plein de choses d'origine animale, et qui, eux, vont donner plutôt des déchets qui sont en fait des produits, ce qu'on appelle des engrais bio. Donc, vous pouvez acheter, vous avez tous des jardins ici, vous pouvez acheter de la farine de sang, par exemple. La farine de sang, c'est un engrais bio qu'on achète couramment. Vous pouvez acheter de la farine de plume, comme je vous ai parlé également aussi. Donc, en fait, ça, ce sont tous des produits assez chers, d'ailleurs, mais qui vont donner un résultat important au niveau des feuilles de vos végétaux. Et quand j'ai fait le tour de tous ces produits qui permettaient d'avoir des jolies feuilles auprès des plantes, vous en avez un autre qui se vend dans le commerce qui s'appelle l'urée. Et l'urée, donc l'urée de synthèse, qui contient 46% donc d'azote. Et donc la conclusion à laquelle je suis arrivé, mais j'ai mis du temps avant d'y arriver, c'est qu'en fait, l'urine, c'est celui de nos déchets qui est le plus rapidement assimilable par les plantes et le plus facilement recyclable. C'est-à-dire que dans l'urine, vous avez de l'azote. Donc l'azote, vous avez 6 grammes par litre d'azote. Donc c'est-à-dire c'est considérable. Donc tous les jours, on excrète, entre guillemets, une dizaine de grammes d'azote. Et donc dans l'urine, vous avez donc de l'azote. Mais vous avez également aussi une autre substance qu'on appelle le potassium, le phosphore. Le phosphore, tout le monde a entendu parler, c'est une substance qui est en ressources limitées sur Terre. Et donc du coup, quand on recycle l'urine, on recycle à la fois de l'azote, qui est un polluant si c'est mis dans les rivières, et du phosphore, qui est également aussi un polluant si c'est mis dans les rivières. Par contre, si c'est mis dans un sol et qu'il y a des végétaux derrière, ça fait pousser les plantes. Autrement dit, le bon compromis dans un jardin, c'est recycler d'un côté les matériaux carbonés d'origine végétale qui vont donner donc du compost, et de l'autre les résidus liquides, les excréments liquides, et c'est donc l'urine. Et la combinaison des deux fait qu'on a, un recyclage le plus court possible et le plus efficace possible. La seule contrainte, c'est celle-ci. Alors, j'ai oublié de dire une chose encore avant de venir ici. Enfin, non, je vais terminer là-dessus. C'est la quantité de sel que nous mangeons chaque jour. Ça, c'est 10 grammes de chlorure de sodium, donc le sel de cuisine que nous mangeons tous les jours. Alors ça, c'est quand même très élevé, et l'intérêt, enfin, que je vous montre ça, c'est simplement pour vous dire que l'eau, quand elle contient du chlorure de sodium, donc du sel marin, a tendance à dessécher les plantes. Et donc, quand on dit l'urine brûle, c'est pas l'urine qui brûle, c'est le sel contenu dans l'urine qui brûle. Et donc, pour toute personne qui sont sur des régimes pauvres en sel, l'urine, c'est du pur engrais. Et un engrais doux, un engrais doux qui contient donc les éléments dont je vous ai parlé, donc azote, phosphore et potassium et calcium et d'autres éléments aussi. La seule contrainte, c'est de diminuer le sel. Alors nous, là-dedans, c'est 10 grammes de chlorure de sodium. Et les préconisations qui sont faites d'une manière générale, c'est la moitié de cette quantité-là. Donc si on mange de l'ordre de 5 grammes de sel par jour, c'est pas du tout gênant pour les plantes. On a fait des essais. Donc moi, je vous ai dit, je suis pépiniériste et je fais des essais. Donc je rajoute du sel et puis je vois jusqu'à quelle quantité on peut aller. Et en fait, sur les 5 grammes de... Si on mangeait 5 grammes au lieu de 10 grammes, il y a très peu d'incidence sur les plantes. D'ailleurs, aujourd'hui, on demande de plus en plus aux éleveurs de remettre du sel dans les prairies pour que l'herbe se remette à contenir du sel. Donc, on est un petit peu trop critiqué le sel. Trop de sel, c'est pas bon, c'est clair. Mais un petit peu, c'est bon. C'est bon pour les abeilles. C'est bon quand elles butinent, quand elles vont butiner, c'est bon pour elles. C'est bon pour les vers de terre, c'est bon pour les chevaux, c'est bon pour les vaches. Donc le sel, il en faut un petit peu. Voilà. Donc c'était la petite contrainte dont je voulais parler. Et je voulais également parler aussi d'une chose. C'est que... Enfin non, ça j'en parlerai peut-être plus tard. Voilà, je voudrais revenir ici maintenant sur l'urine. Alors, si j'ouvre la bouteille, ça pue pas. Alors pourquoi ça pue pas ? Pourquoi ça pue pas ? Tout simplement parce que l'urine peut se minéraliser. Alors qu'est-ce que ça veut dire se minéraliser ? Ça veut dire tout simplement que l'urine, au départ, elle ne sent rien du tout. Et après 24 heures, 48 heures ou allez, 2-3 jours, ça commence à sentir mauvais. C'est parce que le produit se dégrade. Et le produit, en se dégradant, comme un animal mort, ben, émet des substances qu'on sent, ce qu'on appelle des amines, et qu'on peut sentir, des odeurs à la fois de poisson et d'ammoniac. Et au bout d'une semaine, 15 jours, 3 semaines, si c'est aéré, il n'y a plus d'odeur. Mais par contre, le bon produit qui était dedans s'est échappé. Donc du coup, tout l'art consiste à conserver le produit sans que ça pue parce que ce n'est pas agréable et sans que ça pue parce qu'en même temps, ça veut dire que le produit s'est échappé. Et donc, dans les techniques de stockage de l'urine, il y a le stockage dans un bidon, ok, ça fonctionne. Mais il y a aussi d'autres formes de stockage que vous avez pu voir ici d'ailleurs au salon, c'est dans la paille. Donc on peut aussi, entre guillemets, composter de la paille avec de l'urine. C'est-à-dire que vous prenez de la paille, et si vous mettez 1 à 2 litres d'urine par botte de paille pendant 10 jours, au bout de 10 jours, la botte de paille devient un support de culture dans lequel on peut cultiver. Donc c'est une technique qui s'appelle la technique de culture sur botte de paille. Alors, vous avez un autre système qui permet de conserver l'urine. Vous prenez du compost mûr, mais du bon compost bien mûr, donc qui sent le sous-bois. Eh bien, 2 litres de compost acceptent sans problème 1 litre d'urine et il n'y a pas d'odeur non plus. Ici, je reviens 2 minutes sur les bottes de paille. Le monsieur qui utilise les bottes de paille ici aux toilettes sèches, il m'a bien dit aussi que c'est pour empêcher l'odeur, si vous voulez. Donc dès qu'on a un matériau un peu poreux, etc., par-dessus, il n'y a pas d'odeur. Donc, dans un bidon fermé, conservé dans un bidon avec de la paille par-dessus, dans une botte de paille, et à ce moment-là, on peut faire ce qu'on appelle de la culture sur botte de paille, et puis, donc, dans du compost mûr. Alors, je dis bien compost mûr, parce que le compost jeune, il aura tendance à détruire et à manger l'urine. Alors, ce n'est pas un problème, mais disons qu'on va perdre... la spécificité de l'urine qui était une substance décarbonée dont je vous parlais tout à l'heure. Donc si vous prenez du compost vieux, vous connaissez cette marque Or Brun ? Eh bien l'Or Brun, c'est ni plus ni moins que du compost ou des matériaux compostés avec des petits rajouts d'azote qui font qu'on a un produit très, très actif pour les plantes. Donc vous pouvez très bien utiliser du compost, 2 litres de compost, 1 litre d'urine. Et vous avez un produit là qui va faire à la fois nourrir le sol et nourrir les plantes. Alors, donc, vous avez encore un autre système qui est un peu plus sophistiqué. Et c'est un système qui est emprunté à l'élevage. Là-dedans, vous avez une poudre de lave très poreuse. Et cette poudre de lave qui s'appelle de la zéolite, En fait, si l'urine reste pendant 24 heures dans cette poudre, au bout de 24 heures, elle perd complètement son odeur et donc elle devient désodorisée. Voilà. Alors, cette poudre-là, c'est de la zéolite. Il y a certainement d'autres matériaux comme le charbon actif. Je n'ai pas tout essayé, bien évidemment. Mais tout matériau poreux aura tendance à dégrader, mais dans le bon sens, l'urine. Et c'est ce qu'on appelle la minéralisation de l'urine. D'accord ? Donc, l'urine, si vous le mettez dans un compost jeune tel que celui-ci, je dirais que ça va faire une réaction de chauffe et l'urine va être compostée, entre guillemets. Bon, moi, je conseille plutôt de conserver l'urine séparée, le compost de l'autre côté. Et ensuite, au final, on peut rejoindre les deux ensemble, comme je vous ai dit tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on peut mettre l'urine dans du compost vieux ou alors on peut mettre le compost vieux dans le sol et l'urine ensuite dans le sol. Et ça veut dire qu'on aura mis de l'engrais et du compost dans notre sol. Et donc là, on va pouvoir cultiver les plantes pendant 3 mois sans problème. Si jamais on s'aperçoit que les plantes ne poussent pas aussi bien que cela, donc on voit qu'elles poussent, mais qu'elles pourraient pousser plus vite, etc. Bon, ça, c'est un coup d'œil, une habitude. Eh bien, à ce moment-là, on peut utiliser l'urine comme fertilisant d'appoint, comme fertilisant liquide. Et là, à ce moment-là, la dilution, c'est-à-dire qu'on ne va pas l'utiliser pur, c'est 1 pour 20. 1 pour 20, vous notez ? C'est-à-dire que pour un arrosoir de 10 litres, on va utiliser 50 centilitres d'urine. 50 centilitres d'urine, ça correspond à 2 mixtions. Donc quand on va 2 fois aux toilettes, ça fait 50 centilitres d'urine. Donc 50 centilitres d'urine dans un arrosoir de 10 litres, ça vous fait une dose tout à fait acceptable pour n'importe quelle plante. N'importe quelle plante sera intéressée par cet apport en azote, phosphore et potassium. Alors, ça, c'est en cours de culture, mais il faut espacer de 15 jours. Alors, pourquoi est-ce qu'il faut espacer de 15 jours ? Parce que l'urine contient, comme je vous ai dit, de l'urée. Et l'urée, en tant que telle, n'est pas intéressante pour les plantes. Parce que les plantes ne consomment pas vraiment l'urée par les racines. Donc les plantes vont préférer que l'azote ait évolué vers une forme qui leur correspond au mieux. Alors, je vous montre ça. Enfin, je vous montre ça. Vous voyez, c'est ici. Là-dedans, ici, on avait du compost, du bon compost, dans lequel on a mis... de l'urée. Donc de l'urée pure, là, pour le coup. Voilà. Et ça sent, comme dans les piscines, ça sent l'ammoniaque. Et ça, c'est très rapide, ça. Très rapide. Et une fois qu'on a l'ammoniaque, après, l'ammoniaque qui peut être pris par certaines plantes, mais pas toutes. Et donc, du coup, après, il faut que l'ammoniaque évolue vers une forme que les plantes vont aimer. Donc, du coup, en mettant 15 jours entre 2 applications, ça donne le temps au sol, qui contient de la terre plus du compost, de faire évoluer l'urine vers une matière assimilable par les plantes. C'est pour ça qu'on dit espacer de 15 jours. En plein été, quand il fait bien chaud, peut-être qu'en une semaine, ça suffirait. D'accord ? Mais là, il faudrait des moyens un peu plus sophistiqués que ce que j'ai pu faire pour l'instant. Tous les 15 jours, c'est déjà pas mal du tout. Donc, je résume. On récolte l'urine. Cette urine, pendant l'hiver, par exemple. Ensuite, après, on applique cette dose d'urine, enfin, une dose d'urine que je vais vous dire après, par mètre carré de surface cultivée. Je vous ai dit que pour qu'un sol soit biologiquement, physiquement et chimiquement actif, il faut avoir mis au préalable du compost. Donc, on a mis du compost, on met l'urine, donc on a un sol qui est à la fois amendé et fertilisé. Et là, à ce moment-là, on peut planter. Les plantes poussent. Et puis en cours de culture, les tomates, par exemple, on se dit « Putain, j'aimerais bien avoir encore plus de tomates plus longtemps. » Elles commencent un peu à pâlir. Hop. À ce moment-là, on peut rajouter de l'urine, mais ce coup-ci, de l'urine diluée 20 fois, tous les 15 jours. Et c'est clair que quand on met un arrosoir de 10 litres pour 1 mètre carré, c'est une dose. Si on met 2 arrosoirs, c'est une double dose, parce que la proportion sera toujours 50 centilitres par 10 litres. Voilà. Plus une plante est grande, plus il y a des feuilles, plus elle est capable d'absorber et de l'eau et des nutriments. Et donc, c'est vous qui voyez tout de suite les doses que vous pouvez appliquer. Ce dont je viens de vous parler ici, c'est par mètre carré de jardin. Mais vous pouvez faire la même chose sur les plantes en pot. Quand vous avez des plantes en pot, vous avez une plante que vous trouvez un peu palichonne. Pareil, vous pouvez appliquer cette dose dont je vous ai parlé de 1 pour 20. Donc, c'est-à-dire 50 centilitres d'urine pour 10 litres. Alors, dans mon bouquin, c'est tout expliqué. Et puis, quand je donne mon bouquin aussi chez moi, j'ai mis un petit autocollant qu'on met sur l'arrosoir et qu'on plaque sur l'arrosoir. Donc, je vous le dis, hein, 10 centilitres, c'est-à-dire un verre à vin pour un petit arrosoir de 2 litres, un verre à bière pour un arrosoir de 5 litres, deux verres à bière pour un grand arrosoir. Donc, c'est facile à comprendre. D'ailleurs, c'est marqué, on voit sur la photo de mon livre ici, vous avez l'arrosoir de 10 litres qui est fait dans l'Ain. Un arrosoir local, c'est un arrosoir lyonnais local, et deux verres à bière ici, voilà. Et si vous mettez cette dose-là, vous avez la dose que vous pouvez mettre tous les 15 jours dans votre jardin. C'est pas compliqué. Alors, maintenant, revenons 2 minutes sur les doses d'urine par mètre carré. Donc, alors, vous avez vu, je vous ai dit, je suis ingénieur, donc il n'y a rien à faire, il faut des chiffres. Si j'ai pas de chiffres, ça le fait pas. Mais en tant que pépiniériste, il y a le côté un peu artistique. On voit au feeling, on voit aussi comment ça fonctionne. Donc j'ai les deux approches en moi. Alors ce que je voulais dire quand même, c'est que par jour et par personne, chacun de nous va générer entre 1 et 3 litres d'urine. Eh bien, cette dose de 1 et 3 litres d'urine, elle peut être prise par un mètre carré de potager. Et il faut savoir que ce mètre carré de potager correspond à peu près à la quantité de nourriture qu'on mange par jour. Entre la baguette, les pommes de terre, les salades, les tomates, les oignons, le persil et tout, nous consommons à peu près 1 mètre carré. Donc autrement dit, ce 1 mètre carré correspond à la fois à la surface qui produit assez de végétaux et assez de graines pour me nourrir, mais en même temps, c'est une surface qui accepte sans aucune pollution, la quantité de 1 à 3 litres d'urine dont je vous ai parlé. Alors, en plus, c'est compatible avec le cahier des charges bio. Il faut savoir que dans le cahier des charges bio, on ne dépasse pas 170 kg d'azote à l'hectare, ce qui correspond à 17 g d'azote au mètre carré. Et 3 litres d'urine, ça fait quoi? Ça fait de l'ordre de 18 g. D'accord? Donc, on est dans le bon ordre des choses. Par contre, comme je vous ai dit, c'est qu'en cours de culture, si on fait ce qu'on appelle du bio-intensif, c'est-à-dire qu'on met beaucoup de légumes sur une petite surface et qu'on y va de manière intensive, par exemple le persil, les épinards, on les coupe, on voudrait que ça repousse. La salade, vous n'êtes pas obligé de l'arracher, vous pouvez la couper, elle repousse. Eh bien, si vous voulez que tout ça, ça repousse derrière, il faut redonner des nutriments. Et les nutriments, l'urine, c'est le plus simple. Sachant qu'au préalable, pendant l'hiver ou au printemps, on aura mis l'amendement organique qui est d'origine du compost et qui est d'origine végétale. D'accord ? Donc l'urine, c'est un liquide quasi minéral. D'accord ? C'est de l'urée, du phosphore, du potassium. Et la formule est à peu près 6-1-2. 6-1-2. Or, le compost, lui, il est à l'inverse. Il est plutôt du style 0-1-6. Et quand on associe les deux, on arrive à trouver un bon équilibre entre azote et potassium qui doivent être dans les mêmes quantités pour la plupart des plantes maraîchères et une quantité de phosphore rapidement assimilable. Alors, au niveau du phosphore, je voudrais dire 2 choses. Le phosphore a été découvert dans l'urine. Parce que comme ce produit a une couleur jaune, les alchimistes étaient sûrs qu'ils avaient trouvé de l'or dans l'urine. Donc ils ont fait bouillir, chauffer, etc. Et ils ont trouvé le phosphore. Donc le phosphore a été découvert dans l'urine. D'accord ? Et en fait, les mines de phosphate qui existent sur Terre ne sont jamais que des gisements d'os marins. Et donc, c'est en quantité limitée. Donc les plus grandes mines sont au Maroc. Donc c'est au Maghreb qu'il y a les plus grands gisements, mais c'est une ressource limitée. Alors qu'en fait, nous tous, tous les jours, on en excrète une partie et qui n'est pas traitée vraiment de manière très efficace dans les stations de traitement de l'eau. Alors, on arrive, donc, ça c'est la valeur en termes de richesse. Donc je vous ai dit, le gros polluant de l'urine, contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est ça. C'est le sel de cuisine. Alors, pour la petite histoire, il y a un sel qui se substitue à ce sel-là. Donc c'est une marque de sel qui fait un sel où il remplace une partie du chlorure de sodium par du chlorure de potassium et du chlorure de calcium, qui sont deux minéraux intéressants pour les plantes. Le potassium et le calcium, les plantes, elles aiment bien en avoir. Voilà. Donc on peut substituer ce sel chlorure de sodium par d'autres sels qui sont bons pour nous. Il y a aussi le chlorure de magnésium. Vous connaissez, quand on a des crampes, hein, ça, c'est un bon produit aussi. Alors, le chlore, figurez-vous que le chlore, les plantes, elles aiment bien un peu. C'est le sodium qu'elles n'aiment pas. Bon, il y a des plantes qui aiment bien le sodium. Mais d'une manière générale, les plantes n'aiment pas trop le sodium. Le chlore, un petit peu, elles en ont besoin. Voilà. Donc, il suffit juste de limiter sa consommation en minéraux. C'est pas compliqué. Voilà. Et le magnésium, vous pouvez y aller parce que les plantes, elles adorent ça. Alors, pourquoi je dis qu'elles adorent ça et pourquoi je dis que vous pouvez y aller? C'est parce qu'en fait, d'une manière générale, les minéraux se retrouvent à 80% dans l'urine. Les minéraux. Donc, ce que vous rentrez ressort. Ça, c'est Lavoisier qui l'a dit. Hein, tout se conserve. Hein, en fait, il n'y a pas de problème. Et donc, tout ce qui est rentré va ressortir d'une manière ou d'une autre. Et au niveau des minéraux, c'est le cas. Et donc, en règle générale, dans l'urine, c'est là où on va retrouver le plus de minéraux. Alors, à l'exception du fer, qu'on va plutôt trouver dans les matières fécales. Sauf pour les femmes jeunes, on va le retrouver un peu dans l'urine. Voilà. Le fer, c'est l'élément qui va être plus dans les matières fécales. Mais la plupart des minéraux importants pour les plantes, que sont l'azote, le phosphore, le potassium, le calcium, le magnésium et le soufre, on va le retrouver dans l'urine. Les autres éléments, on les retrouvera dans les matières noires. Et en fait, on arrive à tout retrouver. Donc du coup, on peut arriver à une autonomie alimentaire avec ce système. C'est-à-dire que 1 mètre carré suffit pour répandre la totalité de mes déchets par jour et 1 mètre carré me permet de produire la totalité de ma nourriture par jour. Donc ce schéma, théoriquement, il marche. Aujourd'hui, le problème, c'est que les eaux usées sont un peu confisquées et on est tous obligés d'aller aux égouts. C'est un petit peu le problème, c'est-à-dire qu'on utilise de l'eau, de l'eau potable en plus, et les traitements ne sont pas nécessairement faits. Donc ça, c'est un petit peu... Alors c'est aussi pour ça que j'ai écrit ce bouquin, c'est pour dire, bon, ben, c'est sympa l'histoire du tout à l'égout, mais c'est quand même bien dommage, parce qu'en fait, on perd des ressources. Voilà. Et donc rien ne nous empêche de les utiliser. Alors ceux qui vont avoir des toilettes sèches, eux, vont pouvoir recycler les deux fluides, enfin, les matières fécales et l'urine. Les matières fécales, j'en parle pas trop dans mon livre. Il faut savoir que les matières fécales se lombricompostent très facilement. Et donc, du coup, les techniques de lombricompostage sont bien connues. Moi, je peux en parler, mais c'est très facile. Les vers de terre, ils mangent tout. Voilà. Ce sont des animaux. Voilà. Par contre, les vers de terre n'aiment pas l'urine. Donc, c'est toujours bien d'avoir des toilettes à séparation. Matière fécale d'un côté, urine de l'autre. Alors, maintenant, vient peut-être une question au niveau des résidus médicamenteux. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui se pose la question de ce que ça devient? Voilà. Alors, il faut savoir que les résidus médicamenteux, effectivement, se retrouvent dans l'urine. Tout à fait. Alors, les résidus médicamenteux, par définition, sont des substances organiques de synthèse qui sont assimilables par des organismes tels que les nôtres. Et ils sont aussi assimilables par les micro-organismes du sol. Autrement dit, les micro-organismes du sol consomment et détruisent les résidus médicamenteux. Donc quand on a un sol vivant, que ce soit les vers de terre ou les bactéries qui sont à l'intérieur des vers de terre ou les autres micro-organismes qui sont dans le sol, toutes ces bestioles-là vont détruire, dévorer les résidus médicamenteux. Et ce phénomène a déjà été étudié, notamment par des Suisses, qui ont étudié donc justement la dégradation des résidus médicamenteux dans les urines, aussi bien les antibiotiques que, enfin, la plupart des résidus médicamenteux. Donc ça, c'est détaillé dans mon bouquin. Mais c'est clair qu'il faut avoir un sol vivant. Si vous n'avez pas un sol vivant, les résidus médicamenteux vont rester. Et aujourd'hui, il faut savoir que les résidus médicamenteux se retrouvent dans les rivières via les stations de traitement de l'eau. Donc, du coup... Donc, il vaut mieux uriner dans son jardin si le sol est vivant, parce que dans son jardin, on est sûr que les résidus médicamenteux vont être dégradés et donc assimilés naturellement par les organismes du sol qui vont les couper en petits morceaux et qui vont... voilà. Alors cette technique est utilisée aussi en agriculture, c'est ce qu'on appelle le phytobac. Donc le phytobac, c'est un... Donc ça c'est pour d'autres résidus de pesticides et tout, c'est des bacs dans lesquels on met du sol et du compost et de la paille. Et dans ces bacs-là, au bout d'une année, la plupart des résidus de pesticides sont également aussi détruits et les agriculteurs ont le droit, que ce soit en bio ou en pas bio hein, d'ailleurs, hein, de remettre cette terre au champ. D'accord ? Donc ça, c'est la capacité d'un sol vivant à absorber ces fameuses molécules organiques de synthèse. D'accord ? Parce que c'est de ça dont il est question ici. Au niveau des pathogènes, il faut savoir que l'urine, en fait, à moins d'une personne qui a vraiment une infection urinaire, hein, ce qui peut arriver, mais à moins d'une infection urinaire, l'urine d'une personne en bonne santé est stérile. Par contre, c'est l'association... L'urine est un milieu de culture. C'est-à-dire que si on met des pathogènes dans l'urine, là, par contre, ils vont se développer. Il faut savoir que Pasteur faisait beaucoup d'expériences en utilisant l'urine comme... comme milieu de culture. Ce qu'on appelle un milieu de culture, c'est un milieu dans lequel les bactéries et autres bestioles vont se développer. Voilà. Donc, l'urine d'une personne en bonne santé est stérile. Et c'est pour ça qu'on conseille vraiment de scinder les matières fécales des urines. Et si on fait ça, eh bien, je dirais, il y a peu de problèmes. Ceci étant, comme je vous ai fait remarquer tout à l'heure, vous avez l'apparition d'ammoniac très rapidement. Et donc, quand vous avez l'ammoniac a un pouvoir de désinfection en plus. C'est pour ça qu'il est de bonne pratique, si on veut travailler sur de l'urine collective et tout, de conserver les urines dans des bidons pendant 1 à 3 mois, et parce que là, le bidon lui-même va se désinfecter lui-même, quoi. Voilà. Dès que vous avez de l'ammoniac, c'est un désinfectant, hein, d'accord ? Voilà. Mais ceci étant, les risques sont très faibles. Bon, moi, je recommande toujours, bien sûr, de mettre des gants, mais les risques sont très faibles. Par contre, ce n'est pas du tout le cas des matières fécales. Ça c'est clair qu'il y a des tas de pathogènes qui, eux, se développent dans les matières fécales. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? Ah oui, donc je vous ai dit, maintenant, on va revenir aux doses. 1 à 3 litres par mètre carré, vous ne polluez pas. Et vous fertilisez. 1 à 3 litres d'urine par mètre carré en complément de 1 à 3 litres de compost. Donc, si votre projet est de fertiliser à raison de 1 litre d'urine par mètre carré, vous mettez au minimum 1 litre de compost par mètre carré. Pardon, excusez-moi. Donc, je répète, si votre projet est de fertiliser à faible dose en ce qu'on appelle en extensif, 1 litre d'urine par mètre carré, il faut compléter par 1 litre de compost par mètre carré. Parce que compost et urine, je vous ai montré tout à l'heure, amènent à peu près la totalité des éléments dont les plantes ont besoin. Et l'humus nécessaire à la dégradation de l'urine. Si maintenant vous voulez faire une culture un peu plus intensive, donc si vous voulez plutôt mettre 12 ou 15 salades plutôt que 6 salades, à ce moment-là, ben, c'est clair que vous pouvez aller jusqu'à 3 litres d'urine par mètre carré et 3 litres de compost par mètre carré. Pardon ? Non. Avant les cultures, excusez-moi, merci, bonne remarque. Avant les cultures, c'est-à-dire que vous faites ça avant de planter les plantes, les petites plantes, etc., vous faites ça. Et vous attendez un petit peu, il ne faut pas que ça sente mauvais. Et ensuite, vous pouvez tout de suite replanter derrière. Donc, ce n'est pas une forte dose, d'accord ? Ensuite, en cours de culture, vous constatez que vos plantes tomates, par exemple, commencent un peu à pâlir. Bon, à ce moment-là, vous pouvez faire un complément. Et le complément, c'est 50 centilitres d'urine par 10 litres d'arrosage. Et un arrosage comme ça, tous les 15 jours. Et quand vous faites ça, c'est-à-dire ce 50 centilitres d'urine dilué dans 10 litres, tous les 15 jours, voilà, vous n'allez pas polluer. Mais attention, c'est ce que je disais tout à l'heure. Vous suivez, vous regardez vos plantes. Si vos plantes sont belles et sont vertes, il n'y a pas besoin. D'accord ? Ça, c'est le coup d'œil. Je vous ai dit, entre 1 et 3 litres d'urine par mètre carré, c'est déjà une bonne dose et qui est compatible avec le cahier des charges bio. D'accord ? Maintenant, si vous voulez intensifier votre culture, c'est ce qu'on fait, ce qu'on appelle du bio-intensif, là, c'est clair qu'il faudra doubler la dose. et doubler la dose avec 50 centilitres pendant 2-3 mois, tous les 15 jours, ben, vous n'irez pas plus que 6 litres d'urine, quoi. C'est pas énorme, quoi. Par contre, vous sortez du cahier des charges bio. D'accord ? Alors, il se fait que l'urine, donc ça, c'est quelque chose que je ne conseille pas, mais il faut le savoir, que l'urine en pulvérisation foliaire peut être utilisée pure. Parce que l'urine contient de l'urée. Et il faut savoir que l'urée ne pénètre pas dans les plantes par les racines, mais passe par les feuilles. Les engrais foliaires sont des engrais qui contiennent de l'urée. Oui, je vous ai dit, hein, les marques comme Compo, etc., contiennent tous de l'urée. Regardez maintenant, dorénavant, les bidons d'engrais liquides, vous verrez, ça contient toujours de l'urée. Mais les engrais foliaires, c'est toujours de l'urée. Et donc, cette dose, ou la moitié de la dose, hein, y a pas de souci, vous faites un essai, est tout à fait assimilable par les plantes en foliaire. Par contre, c'est clair que ça fait un peu bizarre d'aller pulvériser des tomates ou des salades avec de l'urine pure, quoi. Ça fait un peu bizarre. Très honnêtement, c'est... Comment ? Alors, oui, mais ça, je ne parle pas de ça. Parce que moi, je suis pépiniériste et je m'intéresse à la nutrition des plantes. Oui, voilà. Oui, ça pourrait, voilà. Mais disons que, donc, techniquement, vous pouvez pulvériser avec de l'urine pure. Ah non, un pour 20, il vaut mieux au sol. Il vaut mieux au sol parce que ça pénétrera bien. Par contre, vous pouvez le faire sur les feuilles, ça va pénétrer aussi. Mais diluez pas tant. Diluez de deux, quoi. Ça pénétrera mieux. Ça, c'est pour donner un bon coup de fouet à une plante. Parce que je vous dis, l'urée pénètre par les feuilles. Par les feuilles. Voilà. Alors, donc ça, c'est dans les modes d'application de l'urine. Donc, avant les cultures, 1 à 3 litres d'urine par mètre carré avec la même quantité de compost. En cours de culture, dilué 20 fois, on aura mis du compost au préalable, c'est clair. Et ensuite, donc vous mettez en cours de culture donc 50 centilitres pour 10 litres tous les 15 jours à raison par mètre carré. Et vous arrêtez, ça c'est conseillé toujours d'arrêter un mois avant la récolte parce que vous savez que quand vous consommez une salade ou des épinards, vous avez plein de nitrates. Et donc, les nitrates, dans la salade et dans les épinards, sont éventuellement pas recherchés. Donc, si vous voulez avoir pas trop de nitrates, du coup, vous arrêtez 15 jours avant, hein, au niveau de ces apports-là. Et ensuite, je vous ai dit... Ah oui, dernier point, les plantes en pot. Donc, alors, ça, c'est pas marqué dans mon bouquin, par contre. Si vous voulez fertiliser, cultiver des salades en pot ou des pommes de terre en pot, ça va très bien. Une pomme de terre en pot, ça va très très bien. Eh bien, pour un sac de terreau, vous mettez de 20 litres, vous mettez 1 litre d'urine. Donc c'est le rapport 1 pour 20 à nouveau, mais non pas 1 pour 20 dans l'eau, mais dans le terreau. Donc vous achetez du bon terreau, hein, vous achetez une bonne marque de terreau qui sent bon. Et donc, pour un sac de 20 litres, les petits sacs, vous mettez 1 litre d'urine. Vous mélangez, et là, vous avez 3 mois d'autonomie en engrais. Si par contre, en cours de culture, pareil, la plante elle est gourmande, elle devient palichonne, à nouveau, vous pouvez faire un apport de 1 pour 20. C'est-à-dire un arrosage avec de l'urine diluée 20 fois. Jusqu'à ça percole. Alors, l'urine fraîche ne sent rien du tout. Donc, ça veut dire que quand le liquide est dans la soucoupe, il faut l'enlever parce que le lendemain, ça va sentir. Mais dans le terreau, dans la terre, l'urine ne sent rien du tout. Allez-y, des questions ? Merci. Merci bien. Merci.
Oui, j'aimerais savoir est-ce que c'est utile ou pas dans les dilutions de consoude ou d'ortie ou d'autres plantes.
C'est une autre approche, c'est-à-dire que ce dont vous parlez, les purins de consoude, etc. D'ailleurs, on parle de purins, il y a une autre chose qui marche très bien aussi, c'est les décoctions, c'est-à-dire on fait bouillir dans l'eau, quoi. Hein, voilà. Je dirais que c'est une autre approche. L'intérêt de l'urine, c'est que c'est très facile à utiliser. Et si on ne mange pas salé, c'est vraiment dommage de s'en priver. Moi, franchement, Voilà, c'est pour ça. Si, par exemple, vous mangez une soupe d'ortie et que vous urinez, ben, forcément, ce qui était dans l'urine va se retrouver. Vous comprenez ce que je veux dire? En fait, c'est une digestion efficace. Alors, quand on est végétarien... Non, parce qu'en fait, je vous ai dit, les déchets animaux sont très dégradables. Donc, oui, la dame posait la question quand on est végétarien.
Oui, ma question, c'était, est-ce qu'on doit être végétarien pour uriner sur son jardin?
Non. Voilà. Alors, en fait, non, ça ne change rien. Parce qu'en fait, un végétarien ou un carnivore, en bonne santé, il consomme à peu près la même chose. Voilà, d'accord. C'est au niveau des matières fécales qu'il y aura des différences. Et notamment, un végétarien aura plus de matières fécales puisqu'il y aura plus de fibres à digérer. Voilà. Et par exemple, le riz, qui est une matière végétale, lui, ça se digère très très bien parce que c'est du pur hydrate de carbone. Donc en fait, c'est 100% dégagé très rapidement. Ce qui compte ici, en fait, c'est vraiment le recyclage des matières azotées, phosphorées et le potassium. C'est ces trois-là, plus le magnésium, le calcium et le soufre. Et ce sont les trois éléments dont les plantes ont le plus besoin. La seule chose, c'est qu'il faut attendre 15 jours entre deux apports et éventuellement une semaine quand il fait très très chaud. Voilà. Mais quand on met tous les 15 jours, il n'y a pas de souci.
C'est juste pour confirmer une quantité. Donc en cours de culture, diluée à 1/20 tous les 15 jours. Et en quantité par mètre carré, on a 10 litres, c'est ça ?
10 litres, oui. Comme ça vous fait 50 centilitres tous les 15 jours. Et si on fait sur 6 fois, par exemple, ça fera 3 litres de plus. Donc je récapitule, 50 centilitres dans 10 litres pour un mètre carré, 50 centilitres fois 6, ça fait 3 litres. Donc 3 litres par mètre carré, c'est pas énorme, c'est tout à fait acceptable en bio. Alors, si on a déjà mis 3 litres, eh bien, tant pis, on aura doublé la dose. Mais si les plantes en ont besoin, celles qui vont recycler, il n'y aura pas de pollution. En fait, on ne fertilise jamais sur sol nu, ou du moins, en début de culture, c'est possible. Mais juste en début de culture, on ne va pas mettre de l'urine à l'automne, par exemple. On va la mettre au printemps, juste au moment où ça va démarrer, ou 15 jours avant. Ça, c'est un point important. Hein. Ou alors sur sol couvert, hein.
Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous rappeler les ratios entre l'azote, le phosphore et le potassium par rapport à l'urine et par rapport au compost ?
Alors, donc, c'est dans mon bouquin, donc, mais je vais vous le donner quand même. Le compost est à l'inverse, en fait. Mais on va dire, l'urine, c'est 6 grammes d'azote, 1 gramme de phosphore sous forme P2O5 et 2 grammes de potassium sous forme K2O. Donc ça, c'est pour se conformer aux normes des engrais. Donc c'est 6, 1, 2. Et pour être plus précis, c'est 0,6, 0,1 et 0,2. Voilà, mais c'est 6, 1, 2. Donc c'est un engrais qui passe partout azoté et qui marche de partout au printemps. Par contre, au cours de la culture, si on veut avoir des fleurs et des fruits, il faut avoir davantage de potassium. Et donc le compost, lui, par contre, il est très riche en potassium et très riche en calcium. Et donc, quand on fait le 1 litre, 1 litre ou 3 litres, on arrive à peu près à un même apport en azote et en potassium. Mais disons que je ne vais pas rappeler la formule du compost, parce que ça, c'est un peu relou. Surtout que le compost, quand on dit 1 litre de compost, ça pèse 500 grammes. Et que les matériaux, souvent, sont donnés en pourcentage en poids. Donc, c'est pour ça que j'ai simplifié tout dans mon bouquin. Vous comprenez ce que je veux dire ?
Merci pour toutes ces informations.
Merci.
Je voulais une précision au sujet du compost.
Oui.
Donc, est-ce qu'on peut mettre de l'urine sur le compost tout au long de l'année ou simplement au printemps,
comme vous venez de dire ? Alors, vraiment, le compost, vous pouvez en mettre tout le temps.
D'accord.
Simplement, il y a même des gens qui préfèrent le compost frais et d'autres qui préfèrent le compost ancien. Il y a deux écoles là-dessus. Et sur Lyon, il y a des gens qui sont sur le compost très jeune. Simplement, le compost très jeune, parfois, peut provoquer ce qu'on appelle une fin d'azote. C'est-à-dire qu'il peut piquer l'azote aux plantes, et donc, du coup, on peut se retrouver avec une dépression en azote pour les plantes. Et donc, l'urine permet de compléter ça. Par contre, le compost en surface ne provoque pas de fin d'azote. Donc, on peut toujours en mettre. Et une règle de base, c'est que dès que vous avez des vers de terre dans le compost, il n'y a pas de souci. D'accord. Parce que les vers de terre et les plantes sont 100% compatibles. Et les vers de terre ne mangent pas la bouffe des plantes. C'est important aussi de le dire.
Deuxième question, au sujet des vers de terre, justement. J'ai dans mon compost plein de petits vers rouges.
C'est pas des vers de terre. C'est ceux-là. Les vers rouges, c'est d'accord. ce qu'on appelle les Eisenia fétida.
D'accord.
C'est un petit vers de terre, c'est un vers à fumier qu'on retrouve de partout, et en particulier dans le centre équestre, et qu'on utilise dans les toilettes sèches aussi.
D'accord. Donc il ne craint pas l'urine.
Non, alors c'est un vers qui court en surface. D'accord. On va le retrouver dans les pots, par contre. Mais on ne va pas le retrouver dans le sol.
D'accord. Merci beaucoup.
Par contre, dans les tas de compost, les vers blancs, les cétoines, bon, alors ça, c'est discutable. Moi, je trouve que si on a des poules, les poules, elles adorent ça. Hein, d'accord ? Voilà. Voilà. Les poules, elles adorent les vers blancs. Donc, ce qu'on appelle des coléoptères. Et après, il y a des minuscules petits vers qu'on appelle des colamboles et qui, eux, font un super job en complément des Eisenia fétida, donc les fameux vers rouges.
Oui, donc moi, je stocke mon urine.
Oui.
Et l'hiver, ça gèle dans le pot, dans le seau. Est-ce que ça pose problème ou pas ?
Non, ça pose pas de problème. C'est juste que le pot peut casser et tout, mais ça ne change rien au produit. Par contre... C'est l'urine, donc je vous dis bien. Donc moi j'y travaille là-dessus. Hein. J'ai pas encore la réponse à ça. Hein. Mais un filtrage dans du sable ou quelque chose comme ça permet aussi d'éliminer les odeurs, quoi. Hein, d'accord. Voilà. Mais là j'ai pas encore d'informations à vous communiquer aujourd'hui. Le plus simple c'est de garder le bidon et de le garder dans un endroit qui soit pas trop à la lumière, de manière à, parce que c'est quand même biologiquement actif, quoi.
Oui, une autre question. Donc, je sais pas, vous connaissez les séparettes, là, les toilettes sèches
séparation de phase.
Voilà. Et donc, le bidon où arrive l'urine.
Oui.
Il suffit, je branche mon tuyau dessus et ça dilue. Est-ce que vous savez si ça fait la dilution 1 pour 20 ?
Non, je sais pas. Je sais pas. Hein ? Je sais pas. C'est une bonne question, j'en sais rien. Mais ça, vous pouvez demander au fabricant.
Ouais, okay.
Il s'appelle comment le fabricant ? C'est Ecosec ou Sanisphère ?
La séparette, je sais plus.
Il faut leur demander.
Okay.
Il faut leur demander. Mais 1 pour 20, c'est bien. Alors, 1 pour 10, ça le ferait aussi. Mais le souci, c'est ça. C'est le sel. Alors, 1 pour 20, ça permet d'avoir... Enfin, je dirais que 1 pour 20, c'est bien. Ça s'adapte à tout le monde. Il n'y a pas de risque. Si vous faites 1 pour 10, vous prenez des risques d'être sursalinisé par le sel et par d'autres éléments. Donc, 1 pour 20, c'est mieux. Sur végétaux en cours de culture. Avant culture, pure, il n'y a pas de souci. Si on veut diluer, c'est pour mieux pour répartir l'urine comme un engrais à la volée, en fait. Il y a une question là ?
Bonjour. Est-ce qu'on peut utiliser de l'eau enrichie en urine pour les plantes d'intérieur ?
Bien sûr. Alors pour les plantes d'intérieur, c'est nickel, en fait. C'est nickel pour les plantes intérieures. Vraiment, alors là, allez-y. Mais espacez tous les 15 jours. Et donc, du coup, vous aurez un petit arrosoir de 2 litres. Et là, c'est ce que j'ai proposé, c'est l'équivalent d'un verre à vin. Donc, vous mettez l'équivalent de verre à vin dans un arrosoir de 2 litres. Par contre, il faut vider le pot. Parce que si vous ne le videz pas, ça ne va plus le poisson 2 jours après. D'accord ? Voilà. Mais ça, c'est nickel. Et si vous avez une soucoupe, eh bien, en fait, le problème, c'est que le liquide de la soucoupe, ça pue. Comme n'importe quel engrais bio, vous laissez n'importe quel engrais bio liquide dans une soucoupe, ça pue le poisson le lendemain, quoi. C'est normal, c'est des protéines qui se dégradent.
Dans un bac Riviera, ça donne quoi ? Parce qu'on n'élimine pas...
Alors, dans un bac Riviera, j'ai pas essayé. Moi, ce que je ferais dans le bac Riviera, c'est que je mettrais de la pozzolane ou des billes d'argile dans le fond, quoi. Parce que comme ça, vous avez de la porosité. En fait, dès qu'il y a de la porosité, il y a de l'oxygénation. Et dès qu'il y a de l'oxygénation, l'urine se dégrade très rapidement. Donc moi, je remplirais le bac... Voilà, donc la contrainte, c'est le bac Riviera. C'est clair que c'est... Là, c'est pas évident. C'est pas évident. Donc du coup, moi, ce que je ferais, c'est que je remplirais la réserve d'eau par des billes d'argile concassées ou par de la pozzolane fine ou par du sable. Et à ce moment-là, le liquide irait là-dedans, mais ça vous fait baisser votre réserve d'eau. C'est dommage parce que Bac Riviera, c'est une bonne idée. Alors, il y aurait une autre solution. Maintenant, sur le Bac Riviera, c'est que vous mettiez une petite pompe d'aquarium, blablabla, et en une semaine, l'urine se transforme en engrais pur chimique, naturellement. Et ça, ça marche bien. Ça marche très bien. Donc, vous mettez une petite pompe, là, et en une semaine, c'est la technique de l'aquarium, en fait. D'ailleurs, dans le bouquin, on en parle pour faire de l'uroponie, c'est-à-dire de l'hydroponie avec de l'urine.
Oui, concernant les...
Uroponie, j'ai inventé le mot.
C'est bon ?
Oui.
Concernant les excréments humains,
oui.
Je reste sur des vieilles lectures,
oui.
Qui disaient que, justement par rapport à l'aspect pathogène, hein, dont vous
parliez
tout
à fait.
L'heure, que s'il n'était pas, qu'il ne fallait pas utiliser pour un jardin potager, mais plutôt le réserver, quand bien même composté, pour les haies, par exemple, ou les arbres. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Ah non, mais écoutez, après, même, je dirais, je peux comprendre que les gens, ça les dégoûte de bouffer à la limite une salade à l'urine, même d'un obstacle culturel. Moi, je dis simplement que c'est vraiment dommage de ne pas utiliser l'urine pour au moins les haies, au moins le bois de chauffage, et au moins les fruitiers. Parce que je dirais qu'un pommier qui a été fertilisé à l'urine, ça ne contrarie pas trop l'esprit des gens. Donc moi, je dirais, en priorité, il faut fertiliser ce qui peut être le plus simple pour la totalité des gens. Mais moi, c'est plutôt politique ici. C'est-à-dire que moi, j'estime que tous les jours, on a un déchet de 2 litres et de 2 kilos. Et comment ? Ah, les matières fécales. Ah, les matières fécales. Alors non, alors là, les matières fécales, là, c'est, je dirais que c'est, on rentre dans un domaine que moi, sur lequel je ne suis pas compétent. La seule chose que je peux vous dire, c'est que les matières fécales, lombricompostées, ça marche du tonnerre de Dieu. Et vous pouvez carrément planter une plante pure dedans. Donc j'ai fait les tests. Mais il faut qu'il y ait les vers de terre, les zézénias, les petits rouges de madame, là. Quand vous avez ce matériau là-dedans, vous pouvez planter sans problème. Tant qu'ils sont là, c'est bon, c'est aéré. Quand ils sont plus là, alors le lombricompost ne s'utilise pas pur. Il s'utilise au moins à 30% du mélange. D'accord ? Voilà. Mais quand les vers de terre sont là, vous pouvez y aller pur, il n'y a pas de souci. Les plantes, c'est très compatible. C'est deux milieux qui vont bien ensemble. Voilà. Et sinon, on peut les déshydrater aussi, les matières fécales. Et un autre système, c'est on met du yaourt, on referme, et c'est ce qu'on appelle une fermentation lactique. Ça s'appelle le bokashi. Alors ça, c'est le truc, personne n'en parle. Et il suffit juste de rajouter du yaourt et de bien fermer. Et donc, du coup, ça va transformer vos déchets en choucroute. Donc, vous gardez tout. Non, mais vous verrez, c'est super à la mode, bokashi, dans certains pays, aux États-Unis, etc. Seulement, ils vous font acheter des bactéries. Des ferments. Alors que les ferments lactiques, vous les trouvez dans les yaourts, quoi. Non, les amis, ça sera les plantes, les vers de terre.
Est-ce qu'à la place des billes d'argile, la pouzzolane, pour éviter les odeurs, est-ce qu'on peut utiliser du charbon de bois ?
Mais complètement, et en particulier le charbon actif qui est plus cher. Mais tout ce qui est à base de matériaux poreux, bien sûr, ça fonctionne, bien sûr. Et compost mûr. Compost mûr, ça marche très très bien, compost mûr.
Pour les arbres fruitiers, c'est quelle proportion ?
Eh bien, alors les arbres fruitiers, c'est assez simple, hein. En fait, on repère un peu le pourtour de l'arbre. Donc, mettons 3-4 mètres de rayon. Et dans cette circonférence, on va dire, vous calculez donc pi r carré, hein, vous vous souvenez ? Bon, ok, voilà, ça vous donne une idée du nombre de mètres carrés. Et là, vous faites la dose, 1 à 3 litres par mètre carré. Bon, moi, je trouve qu'on peut y aller à 3 litres, on y va, quoi. Moi, je veux dire, il n'y a pas de raison. Mais entre 1 et 3 litres par mètre carré, et ensuite, éventuellement, des compléments. Mais déjà, 1 à 3 litres par mètre carré complété par du compost. Et alors, pour les arbres fruitiers, et éventuellement aussi par de la cendre de bois. Parce que la cendre de bois contient du potassium et du calcium. Il faut savoir que le mot potassium K vient du mot... Enfin, donc le mot potassium vient du mot pot H. Pot de cendre. Donc cendre égale potassium dans tous les coups. Donc vous pouvez toujours rajouter 50 à 100 grammes par mètre carré. Voilà, chaque année. Chaque année.
Bonjour.
Bonjour.
Je voudrais savoir ce que vous pensez de la mixture, enfin pas la mixture, mais du mélange de la cendre, du thé de compost et de l'urine. Et à quelle proportion ?
Alors,
Bon. Et puis, deuxièmement, l'urine du matin, si c'était la même dilution que ce que vous avez donné pour le...
J'ai parlé d'une urine moyenne. C'est clair que le matin, l'urine est plus riche. C'est pour ça que moi, j'ai parlé d'une urine moyenne, c'est-à-dire qu'une personne qui collecte son urine. Et donc, du coup, en moyenne, une urine d'une personne va faire 6 grammes par litre d'azote. Mais à tout moment de la journée, ça va varier et varier fortement. D'accord ? Donc, un indice, c'est la couleur. Un indice, c'est quand est-ce qu'on a mangé avant, etc. Qu'est-ce qu'on a mangé avant aussi ? Donc, voilà, qu'est-ce qu'on a mangé et quand ? Donc, voilà, là-dessus, après, on rentre dans un univers que je maîtrise pas. Mais par contre, donc voilà. Donc, l'urine, partez sur la base de 6 grammes par litre d'azote pour l'urine récoltée pendant 24 heures. Voilà. Maintenant, le thé de compost. Alors, le thé de compost, il contient tout sauf de l'azote. Il contient du potassium. Autrement dit, moi, je proposais tout à l'heure de mettre du compost, mais si vous voulez utiliser du thé de compost, c'est-à-dire un jus fermenté ou pas fermenté, bon, bref, du thé de compost dont monsieur parle, en fait, c'est un complément. C'est un complément. Par contre, dans les thés de compost, c'est des thés de compost bien minéralisés qui ne sentent plus rien du tout. Moi, j'utiliserai la même machine pour faire le thé de compost pour minéraliser l'urine. Et à ce moment-là, vous vous retrouverez avec un produit qui ne sent plus rien. Ça, c'est dans mon bouquin. C'est sur ce qu'on appelle l'uroponie. Transformer l'urine en un engrais minéral. Donc, c'est très simple. Hein. Il suffit d'aérer pendant 3-4 jours à 25-30 degrés. Et quand vous faites ça, donc c'est la technique du thé de compost dont il parle, vous avez un jus qui est un pur fertilisant. Vous avez la même chose quand vous prenez du fumier de ver de terre. Vous prenez du fumier de ver de terre, vous le mettez dans un arrosoir à raison de 1 pour 10. Le lendemain, vous avez une solution fertilisante, directement assimilée par les plantes. Mais c'est avec le fumier de ver de terre, ça. Cendre, c'est un engrais potassique. Le potassium, on n'en manque jamais. Ce qui manque toujours, c'est l'azote qui fait pousser, et surtout au début du cycle, et le phosphore qui est un élément fondamental et qui est rare.
Quand on stocke l'urine dans un contenant en plastique, l'urine attaque pas le plastique?
Peut-être, je n'en sais rien. Je ne peux pas vous dire. Mais attention aussi que je recommande aussi de garder le bidon en plastique à l'abri de la lumière. Parce que c'est lumière, chaleur, enfin écart de température et produits qui font une dégradation. Hein, d'accord ? Donc moi, je recommanderais surtout d'être tempéré et à l'abri de la lumière.
Oui, bonjour. C'est très intéressant. Qu'est-ce qu'on attend pour... alors, c'est politique, mais qu'est-ce qu'on attend pour récupérer, organiser la récupération?
Écoutez, je ne comprends pas parce que en Suisse, donc moi, mon bouquin, c'est basé sur des travaux de Suisse. Et à Zurich, un bâtiment entier, les urines sont collectées et sont transformées et ils fabriquent un engrais. Et cet engrais, il est vendu. Alors, il est une dérogation. C'est pas un produit que vous trouverez dans le commerce n'importe où en Suisse. Hein. Mais c'est un produit... Voilà, ça, c'est du concret, quoi. Ils sont allés en Afrique. Et en Afrique, ils ont mis en place des toilettes pour le faire aussi, quoi. D'ailleurs, nous, on va toujours former les Africains. Mais je crois qu'on va devoir aller s'informer auprès des Africains sur des bonnes techniques de recyclage. Je suis bien d'accord avec vous. Et moi, je dirais que pour démarrer là-dessus, en piste concrète... Il faudrait surtout avec les villes, la ville de Lyon, la ville de Grenoble, ou des petites villes aux alentours, qu'on se dise, bon, ben allez, on fait un essai, quoi. On fait un essai de collecte et on fait pousser des arbres, des choses comme ça, quoi. Voilà. Alors, à Grenoble, j'avais fait des essais avec le Pays Voironnais, donc de leur compost, et on a fait des essais avec un jus, mais qui puait, c'était une horreur, c'était un jus, un résidu de plateforme de compostage, qui avait les mêmes caractéristiques de l'urine, et on a fait des essais, et on a obtenu des bons résultats sur leur potager et sur la culture de maïs également aussi. Voilà.
Oui, merci. Encore une question, s'il vous plaît. Est-ce que l'urine peut remplacer le fumier?
Alors, c'est complémentaire. Le fumier, ça va vous amener ça. Le fumier, c'est un matériau d'origine végétale, qui contient un peu d'azote, c'est clair, mais qui contient quand même beaucoup de paille en règle générale. Hein. Alors, sauf le fumier sans paille. Alors, le fumier sans paille, c'est une matière fécale, et là, à ce moment-là, on se trouve sur un produit un peu intermédiaire. Mais le fumier, de manière générale, contient toujours la litière. La litière, c'est de la paille, donc on va faire de l'humus, et on va amener du potassium, du calcium, etc. Bien sûr qu'on amènera un peu d'azote, mais pas tant que ça. Donc, fumier va nous faire du compost, ou alors aussi les résidus alimentaires, c'est pareil, les déchets de cuisine, c'est comme du fumier en fait. Donc c'est complémentaire, 50-50. Or noir, or liquide. Oui, alors attendez, il y a une question.
Alors moi je voudrais reparler de ce que vous avez dit juste avant.
Oui.
Et j'ai vu une émission à la télévision qui m'avait vraiment scotché, comme on dit.
Oui.
C'est parce qu'en Chine,
oui,
il y a des. Bon, les petits garçons surtout, pas les filles, les petits garçons qui sont en internat. Il y a des toilettes séparées,
oui,
et il y a des bidons citernes qui viennent récolter l'urine.
Mais bien sûr.
Je ne sais pas ce qu'ils en font.
Mais on n'a pas besoin d'aller en Chine. Ça se fait en France aussi, mais ça se fait en douce. Parce que c'est interdit, en fait. Donc, c'était pour répondre à la question du monsieur tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on attend? Eh bien, il faudrait que l'urine naturelle soit homologuée. L'urée de synthèse est permise. Mais l'urine naturelle n'est pas permise. C'est comme un truc incroyable, mais c'est comme ça. Et c'est fou, hein. Donc, ne vous inquiétez pas, il y a des gens qui le font, mais ils ne le disent pas. Et voilà l'histoire. Alors, il y avait une question de la dame ici.
Oui, avec le fumier, il y a toujours de l'urine, puisque les vaches, voilà.
Oui,
donc,
oui. Non, mais on est bien d'accord. Mais le fumier, c'est quand même, grosso modo, majoritairement... des déchets avec de la paille, des déchets végétaux. Voilà. Voilà, donc c'est ça. Donc dès qu'on a matière végétale, on va vers des matières noires, des matières carbonées. Dès qu'on est sur des matières animales, donc alors je vous ai dit, des déchets d'abattoir, des parties du corps et des excrétions liquides, on est sur des aspects minéraux ou alors facilement biodégradables, très rapidement biodégradables.
Oui, je voudrais avoir un renseignement. Vous l'avez dit tout à l'heure, mais je n'ai pas très, très bien compris. Pour conserver l'urine,
oui,
quel est le meilleur moyen?
Pour consommer
l'urine, pour la conserver.
Ah, pour conserver. Alors, pour conserver, écoutez, donc première technique, c'est le bidon fermé, à l'abri de la lumière et à température ambiante, quoi. D'accord? Voilà, ça, c'est le premier système. Par contre, quand on va ouvrir le bidon, il va y avoir un dégagement d'ammoniac, oui, et d'autres substances. Donc ça, c'est une perte du produit. Et ce n'est pas très agréable. Mais ça fonctionne. Deuxième façon de faire, c'est vous stockez votre urine. Donc ce que je vous ai dit, c'est qu'il fallait mettre du compost dans le sol. Eh bien, avant de le mettre dans le sol, votre compost, s'il est bien mûr, vous pouvez y stocker de l'urine. Et à ce moment-là, vous faites un pré-mélange. À raison de 2 pour 1, parce que pour 2 litres de compost, vous mettez 1 litre d'urine, voilà, par exemple, parce que de manière à ce que le compost absorbe. Et comme le compost est très poreux, il va conserver l'urine sans que ça pue. Donc ça, c'est une technique qui va bien. Une autre technique qui, elle, est dynamique et qui est vivante, c'est vous utilisez de la paille. Et là, si vous mettez de l'urine dans de la paille, donc c'est ce qu'on appelle la culture sur botte de paille, là, c'est la paille qui va se transformer, qui va consommer l'urine, et après vous pouvez donc planter sur votre botte de paille. Vous mettez donc, c'est une technique, sur des ballots de paille, ils sont mis de l'autre côté en fait, et en fait vous mettez l'urine, eux ils conseillent d'acheter de l'engrais bio ou de synthèse, c'est débile, parce que ça coûte très cher, et il suffit de recycler 1 litre d'urine par jour et par botte de paille pendant 10 jours, et après vous cultivez dans ces bottes de paille. Donc là, en fait, c'est on transforme une botte de paille en terreau. Ensuite, je vous ai dit donc la technique pierre de lave, charbon actif, charbon actif ou comment ça s'appelle, ce que vous avez dit tout à l'heure, là, charbon de bois. Donc là, c'est une technique qui consiste à utiliser un matériau poreux pour que l'urine se minéralise. Moi, ce que j'utilise bien aussi, c'est un vermicomposteur, vous savez, un petit dans lequel il y a des vers de terre. Et on peut mettre n'importe quel fluide. On fait passer, mais tout doucement. Et le jus qui sort, là, ça ne sera plus du thé de lombric, ça sera du thé de cette matière que vous aurez mis en haut. Donc ça sera les deux à la fois. Et là, vous avez un matériau qui est très, très riche en azote et en potassium. D'accord ? Voilà. Et puis dans le sol, bien évidemment.
Oui, bonjour. J'avais juste une question pour gérer un excédent d'urine. Si on en a trop, qu'on a peut-être un jardin trop petit ou pas assez de compost, qu'est-ce qu'on peut en faire ?
Eh bien, donc du coup, le mieux, c'est ou le compost ou la paille. Ou alors, faire une station de traitement. Donc, comme dans une station de traitement de l'eau, mais là, à ce moment-là, ça devient un peu compliqué. Mais c'est jamais très compliqué, en fait. C'est juste un brassage d'un jus à l'aide de bactéries qu'on trouve naturellement. Et au bout de 3-4 jours, ça se transforme. Mais bon, vous vous retrouvez quand même avec... Parce qu'il faut savoir que chacun de nous produit 500 litres d'urine par an, quoi. C'est considérable. Oui, oui. 500 litres d'urine par an. Donc, c'est considérable. Donc... Là, je donne ma langue au chat pour l'instant. Les Suisses, eux, ils traitent et ensuite ils font un étuvage. Mais c'est coûteux en énergie.
Pardon, encore une question, s'il vous plaît. Que pensez-vous du bicarbonate de soude comme désodorisant ?
Que faire avec le bicarbonate de soude ?
Pour désodoriser.
Disons que le mot soude, pour moi, me pose problème parce que c'est le sodium.
Et donc,
du coup, moi, dès qu'il y a le sodium, j'aime pas trop parce que mes plantes n'aiment pas trop non plus. Donc, je ne peux pas répondre à votre question. Tout ce que je peux vous dire, c'est que le charbon actif permet de le faire. Hein. Merci. Ben, merci.